Véroa Afrique, Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 15 juin 2022. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Sebulia. Les titres pour commencer. Au Niger, 8 gendarmes ont été tués dans une attaque par des terroristes près du Burkina Faso. Au Mali, le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, reçoit l'émissaire américain pour les otages, Roger Carstens. Au moins 2 Américains sont détenus au Sahel. Kinshasa hausse le ton contre Kigali, accusé de soutien aux rebelles du M23. Londres et Kigali, pas découragés après l'annulation du premier vol prévu pour migrants expulsés vers le Rwanda. Kiev appelle à tenir le coup au Donbass où Moscou propose un couloir humanitaire. L'espace aérien suisse a été fermé jusqu'à nouvel ordre. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Au Niger, 8 gendarmes nigériens ont été tués hier dans une attaque perpétrée par des hommes armés dans la région de Tillabéri, près de la frontière avec le Burkina Faso. C'est ce qu'indique un communiqué du gouvernement. Précision de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Le communiqué du ministère de la Défense nationale annonce la mort d'une cinquantaine d'hommes parmi les assaillants qui seraient venus au guidon de dizaines de motos et de véhicules. Des sources non officielles indiquent qu'il s'agirait des auteurs de l'attaque de Seitanga au Burkina Faso. La localité où les 8 gendarmes nigériens sont morts n'est en effet pas loin de la frontière avec le Burkina Faso. Il s'agit de Waraou, situé dans le département de Tera. En février 2021, c'est dans cette même localité que 7 agents électoraux ont trouvé la mort dans l'explosion de leur véhicule qui a roulé sur une mine. En plus des 8 morts de ce mardi matin, l'on déplore une trentaine de blessés, dont des graves, et la destruction de 6 véhicules. Abdulrazak Idrissa pour VOA Afrique.
Concernant le massacre de Seitenga, mentionné par Abdulrazak Idrissa, on en sait un peu plus au Burkina Faso sur les circonstances de cette attaque qui a fait au moins 79 morts. Des rescapés décrivent des scènes violentes et certains disent n'avoir pas obtenu le soutien de l'armée. Mohamedou Humfa nous en dit plus.
Selon des témoins, le carnage a commencé samedi en fin de journée dans cette localité du nord du Burkina Faso, à quelques kilomètres du Niger. Des hommes armés sont venus prendre des positions, encercler le village et tirer. Ils ouvraient même les portes des maisons pour entrer et exécuter, explique Amadou, un rescapé réfugié à Dori, la grande ville proche de Seitenga. Les terroristes ont visité des boutiques l'une après l'autre, incendiant certaines. Ils tiraient sur ceux qui tentaient de fuir. Ils sont restés dans la ville toute la nuit, précise un autre rescapé qui souhaite rester anonyme. Nous avons alerté, nous avons demandé au moins un renfort pour sécuriser les populations sans défense, a fait savoir Amadou, ajoutant que le lendemain, à la levée des corps, les forces de sécurité ont plié bagages et sont parties. Le vendredi, la gendarmerie, escortée par l'armée qui était venue en renfort, s'est repliée sur Dori, explique un rescapé. Du coup, des gens avaient commencé à fuir la ville, explique un autre. L'armée burkinabé avait annoncé avoir tué une quarantaine de djihadistes à la suite d'une première attaque jeudi. Selon le gouvernement burkinabé, les djihadistes sont revenus attaquer Seitenga samedi pour venger leur mort.
Le chef de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, a reçu hier l'émissaire spécial de Washington pour les affaires d'otages, Roger Carstens. Au moins 2 citoyens américains sont détenus au Sahel. Le point avec Abdulrahman Dia.
L'annonce de cette audience a été faite par la présidence malienne dans un tweet accompagné de photos du colonel Goïta en uniforme en compagnie de ses hôtes. Aucune autre information n'a été communiquée sur la rencontre. Au moins 2 Américains sont otages au Sahel. Jeffrey Woodkey, un humanitaire chrétien qui venait en aide aux populations nomades avec une ONG à Abalak, au Niger, a été enlevé le 14 octobre 2016 et sans doute été conduit au Mali voisin selon des sources sécuritaires nigériennes. Son épouse, Else Woodkey, disait en novembre 2021 à ABC News avoir des raisons de croire que son mari avait été transféré d'un groupe affilié à l'État islamique à un autre affilié à Al-Qaïda. Sue Ellen Tennyson, une religieuse de 83 ans, a quant à elle été kidnappée par des hommes armés dans la nuit du 4 au 5 avril 2022 dans la paroisse de Yalgo, dans le nord du Burkina Faso. Son enlèvement n'a pas été revendiqué. D'autres étrangers, allemands, australiens, italiens, roumains ou togolais, sont toujours détenus au Sahel, de même que de nombreux maliens.
Au moins 7 personnes ont été tuées, dont 4 décapitées, dans de récentes attaques djihadistes dans le nord-est du Mozambique. Les violences dans la province riche en gaz naturel du Cabo Delgado touchent désormais des zones relativement épargnées jusque-là et provoquent un nouveau déplacement massif de population. Le pays est en proie depuis 2017 à des violences djihadistes qui ont déjà fait près de 4000 morts, selon l'ONG ACLED, et forcé environ 800 000 personnes à fuir. Après les soupçons et les mises en garde, la République démocratique du Congo a haussé le ton hier soir en condamnant le soutien apporté selon elle par Kigali aux rebelles du M23 et promettant de défendre chaque centimètre de son territoire. Cette condamnation est contenue dans un communiqué du ministère de la Communication au lendemain de la prise par les rebelles du mouvement du 23 mars de Bunagana. Cette localité est un important centre de commerce situé à la frontière ougandaise dans la province congolaise du Nord Kivu. Kigali nie tout soutien au M23. Le gouvernement britannique s'est dit pas découragé, affichant sa détermination à envoyer au Rwanda des migrants entrés illégalement au Royaume-Uni, malgré l'annulation du premier vol prévu mardi soir à la suite de recours judiciaires. De son côté, le gouvernement rwandais a affirmé mercredi qu'il n'était pas découragé et restait engagé dans ce partenariat, selon la porte-parole du gouvernement, Yolande Makolo.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'espace aérien suisse est fermé jusqu'à nouvel ordre en raison d'une panne informatique, a annoncé ce mercredi le service de contrôle aérien SkyGuide dans un communiqué. La société n'a donné aucune explication sur les raisons de la panne, précisant seulement que cette fermeture de l'espace aérien s'applique jusqu'à nouvel ordre. La Russie a appelé les Ukrainiens à cesser ce qu'elle a appelé leur résistance absurde à Severodonetsk et proposé un couloir humanitaire pour en évacuer mercredi les civils, sans réponse de Kiev. Le président Volodymyr Zelensky a exhorté au contraire à tenir le coup dans le Donbass, région vitale à saisir et dont dépendra la suite de la guerre de Moscou contre son pays. Selon le chef de l'administration de Severodonetsk, 540 à 560 personnes sont réfugiées dans les sous-trains de la vaste usine chimique azote, emblématique de cette ville industrielle de l'est de l'Ukraine. Cette situation rappelle celle de l'aciérie Azovstal, qui fut des semaines durant la dernière poche de résistance ukrainienne du port de Mariupol sur la mer d'Azov. Le président américain Joe Biden a pointé du doigt hier l'invasion russe de l'Ukraine et ses opposants républicains pour expliquer l'inflation galopante aux États-Unis. Ginny Nua.
S'exprimant devant des syndicats à Philadelphie, le président Joe Biden a soutenu que l'inflation sape les forces de beaucoup de familles. Il a affirmé qu'il ressentait la douleur des Américains, ayant lui-même grandi dans une famille où la hausse des prix de l'essence était un sujet de conversation à la table du dîner. Selon lui, l'attaque de la Russie, riche en hydrocarbures sur l'Ukraine, productrice majeure de blé, a provoqué les hausses de prix des carburants et de l'alimentation. Mais il a également affirmé que les républicains au Congrès font tout ce qu'ils peuvent pour l'empêcher de mettre en place son programme visant à réduire les coûts pour les familles ordinaires. Les emplois sont de retour, mais les prix sont toujours trop hauts. Le Covid est en baisse, mais les prix de l'essence sont en hausse. Notre travail n'est pas terminé, a déclaré M. Biden. La Banque centrale américaine, la Fed, tente encore une fois d'apaiser l'inflation et une nouvelle hausse des taux d'intérêt est attendue ce mercredi.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le président nigérien Mohamed Bazoum estime que les pays africains sont punis par les décisions des pays occidentaux visant à mettre fin au financement de projets liés aux énergies fossiles dès cette année. Nous allons continuer à nous battre. Nous avons des ressources fossiles qui doivent être exploitées, a-t-il plaidé hier à Abidjan à la clôture de l'Africa CEO Forum. La République démocratique du Congo a émis des factures aux opérateurs de télécommunications qui devraient leur coûter environ 180 millions de dollars par an, ont indiqué deux sources proches du dossier. Le gouvernement de Kinshasa a adopté la taxe imposant des prélèvements sur chaque appel téléphonique, SMS et mégaoctets de données en mars. Cette taxe remplace un autre prélèvement qui a été supprimé. Pour terminer, en Guinée équatoriale, la justice a condamné l'entreprise Commercial Santé pour délit contre la santé publique, pour avoir notamment changé les dates de péremption des produits alimentaires et avoir vendu des produits pharmaceutiques non autorisés. Commercial Santé devra payer une amende de 411 millions de francs CFA. Les machines ayant servi à changer les dates de péremption seront confisquées. Les produits saisis par les autorités dont les dates ont été altérées seront détruits.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Mondial 2022, la Tunisie rêve des huitièmes de finale.
Oui, la Tunisie qui a remporté hier la Coupe Kirin en battant le Japon 3-0 à Osaka peut atteindre les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, estime le sélectionneur Jalel Kadri. Notre but était d'atteindre la Coupe du Monde. Maintenant que nous y sommes, nous voulons atteindre la phase d'élimination directe pour la première fois, a déclaré le sélectionneur de 50 ans. La Tunisie a participé à 5 Coupes du Monde sans jamais parvenir à dépasser les phases de groupe. Les Aigles de Carthage figurent dans le groupe D avec la France, le Danemark et l'Australie en phase de poule de la Coupe du Monde prévue du 21 novembre au 18 décembre prochain.
Le Costa Rica, dernier pays qualifié pour le Mondial 2022.
Le Costa Rica a décroché le dernier des 32 billets pour le Mondial 2022 au Qatar en battant la Nouvelle-Zélande 1-0. Dès la troisième minute, l'ancien attaquant d'Arsenal, Joel Campbell, a converti la seule occasion des centre-américains dans la première période dans l'ère climatisée du stade Ahmad Ben Ali à Al Rayyan de Doha, qui accueillera cette rencontre de la première Coupe du Monde dans un pays arabe. Pour leur sixième Coupe du Monde et la troisième consécutive, les Costariciens rejoignent l'Espagne, l'Allemagne et le Japon dans le groupe E.
L'Angleterre sombre face à la Hongrie en Ligue des Nations.
Les Three Lions ont subi une défaite historique contre la Hongrie 4-0 à Wolverhampton lors de la quatrième journée de la compétition. Il faut remonter à un 5-1 encaissé contre l'Écosse en 1928 pour retrouver trace d'une défaite à domicile aussi large pour l'Angleterre. Ils se retrouvent bon dernier de leur groupe avec 2 points en 4 matchs derrière la Hongrie 7 points, l'Allemagne 6 points et l'Italie 5 points. Justement, après 3 nuls en Ligue des Nations et un flot de critiques, la Mannschaft a dominé l'Italie 5-2 à Mönchengladbach avec un doublé de Timo Werner. Selon le statisticien Opta, c'est la première fois depuis 1957 que l'Italie encaisse 5 buts en match international.
Tennis, Serena Williams, invitée à Wimbledon.
La star américaine du tennis qui n'a plus joué depuis son abandon l'an dernier au premier tour de Wimbledon a reçu une invitation pour participer à la prochaine édition du tournoi londonien du 27 juillet au 10 juillet, ont annoncé les organisateurs. Serena Williams, 40 ans, qui a remporté 7 fois le titre sur le gazon londonien, est retombée à la 1208e place mondiale. La cadette de Sir Williams jouera en double le tournoi sur gazon d'Eastbourne, associée à la Tunisienne Hans Jaber, 4e mondiale, selon les organisateurs de ce tournoi préparatoire au majeur.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, l'attaque de Setenga dans le Sahel le week-end dernier a fait 79 morts. C'est le dernier bilan annoncé hier par le gouvernement. À Ouagadougou, c'est un sentiment de colère et de tristesse des populations, nous dit de la capitale burkinabé notre correspondant Lamine Traoré.
Dans la capitale burkinabé, beaucoup restent incrédules. 50 morts à Seitenga, annoncés officiellement le lundi, sont devenus 79 morts le mardi. Beaucoup ne savent plus à quoi s'en tenir. C'est un sentiment de tristesse et de déception dans les rues de la capitale.
Non, nous, on pense qu'ils vont les détenir pour gagner ce que nous voulons là. Quelque chose qui est fait comme cela, ça ne peut pas finir un jour. Il faut se débrouiller un peu, ça va tout finir.
Au début, beaucoup pensaient que c'était pour vraiment soulager le peuple, l'ensemble du peuple burkinabé, changer, amener le changement. Mais on a l'impression que ce n'est pas le cas. Il ne répond même pas au un tiers de l'attente de la population.
Vous ne croyez pas à la capacité donc de ces nouvelles autorités à gérer la situation sécuritaire?
Je peux croire à leur capacité, mais seulement que c'est que on attendait de quand ils ont fait le coup d'État pour renverser Roch. C'est pas ce qu'on perçoit actuellement.
Mais hier, le gouvernement a dit que c'est 50 morts. Donc, il y a eu un souci entre eux ou bien ils ne sont pas allés au terrain pour voir ce qui est passé. Ça nous dépasse. S'il y a eu une chose, ils doivent aller au terrain pour voir ce qui est.
Vraiment, nous sommes vraiment mécontents par rapport à cette situation-là. Aujourd'hui, il est pratiquement difficile donc de se déplacer dans certaines zones. Et cela n'est pas vraiment honorable pour notre pays. Le sentiment qui nous anime aujourd'hui, c'est vraiment un sentiment, on peut dire de déception, parce qu'on aurait cru que, nous avons cru que si peu de temps, certaines choses allaient se normaliser. Mais jusqu'à présent, on constate en tout cas une augmentation donc des attaques.
Le gouvernement n'a comptabilisé pour l'heure que 79 morts dans cette attaque de Seitenga. Mais selon un communiqué du chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell, l'attaque a fait plus d'une centaine de morts. L'ancien parti au pouvoir, le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, a parlé mardi soir d'au moins 150 morts dans sa déclaration, citant des sources locales. Beaucoup de rescapés et survivants qui ont fui vers Dori, la capitale de la région du Sahel, ont aussi affirmé que dans leur panique, ils ont vu tellement de cadavres qu'il leur était impossible de les compter. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Le Burkina Faso a entamé ce mardi un deuil national de 3 jours après l'attaque de Seitenga. Les meurtres du week-end sont des représailles aux actions de l'armée qui ont fait des saignées au sein des groupes djihadistes, a estimé le porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo. Avant Seitenga, le pays a connu des attaques aussi meurtrières dans Solan et Inata. Où va le Burkina, s'interroge le quotidien privé Le Pays. Yacouba Ouédraogo a joint à Ouagadougou Bundi Ouoba, directeur des rédactions du journal Le Pays.
Selon certaines sources locales que nous avons pu nous joindre, ce sera plus lourd que le gouvernement a annoncé. J'écoutais le gouvernement en se rassurant, en laissant croire que les chiffres que les uns et les autres balancent sur les réseaux sociaux ne sont pas exacts. Nous ne sommes pas vérifiés. Mais nous avons entendu qu'il y a sur place des rescapés qui disent que le bilan est plus catastrophique que ce que communique le gouvernement. Notre pression, de cet égard, de façon générale, au sein de l'opinion burkinabé, c'est que c'est comme si le gouvernement travaillait à camoufler la réalité de ce fait, histoire de laisser croire que la situation s'améliore alors qu'il n'y a rien. Ça me rappelle, soit dit en passant, le massacre de Solan l'année dernière, où aussi on avait accusé une guerre de Chypre.
L'attaque a commencé samedi dans la soirée. 2 jours plus tôt, jeudi, il y a eu une attaque qui a fait 11 gendarmes tués. On se demande comment cela a pu se produire juste deux jours après.
Juste après les différentes attaques que vous venez de citer, il y a eu des renforts qui arrivent. Les populations avaient applaudi, laissant croire qu'elles seraient mieux protégées. Mais on s'est rendu compte qu'après, ce que l'on considère comme une percée de l'effort de l'ordre sur le terrain, parce qu'il y avait eu en réaction une quinzaine de terroristes qui avaient été abattus, pratiquement toutes les forces de défense et de sécurité sont reparties, abandonnant les populations à elles-mêmes au risque de paysage. Mais naturellement, les terroristes qui ne cherchent que des actions déclarent ont profité de l'occasion pour revenir et en surnombre, naturellement, le bilan ne pouvait être que ce qu'il est aujourd'hui. Donc l'erreur qu'a commis notre armée, c'est d'avoir levé complètement le camp une fois les opérations de ratissage terminées. On a l'impression que c'est devenu pratiquement la mode après les opérations de ratissage. On se rend compte que les forces de défense et de sécurité lèvent le camp et mettent les populations à elles-mêmes. J'en veux pour preuve ce qui est arrivé à Maguari le 26 mai dernier, où après l'attaque, les forces de défense et de sécurité sont complètement parties. C'est que les hommes qui peuvent, chaque habitant était obligé maintenant de chercher où aller se réfugier. C'est là que ce sont une dizaine de personnes qui avaient été élus portées vers Fadal Gourma, sur une population estimée à 5000 âmes. Vous imaginez à quel point c'est dangereux.
Avant Seitenga, il y a eu des attaques aussi meurtrières à Inata ou encore Solhan. L'armée a débarqué le président Roch Kabore. Elle a pris le pouvoir. Les attaques continuent. Je reprends le titre de votre journal Le Pays. On se pose la question, où va le Burkina?
Aujourd'hui, on a l'impression que depuis l'arrivée des militaires au pouvoir, la situation devient pire qu'elle était avant. À preuve, on est en train de perdre le contrôle de certaines localités qui étaient sous le contrôle de nos forces de défense et de sécurité. On nous dit qu'il y a des localités qui étaient reconquises par nos forces de défense et de sécurité, mais pas à même de nous communiquer le nom de ces localités. Comme ici, il y avait quelque chose qui nous avait caché. Et le prétexte pour trouver, c'est qu'en communiquant le nom de ces localités, les terroristes vont repartir et investir ces lieux. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, s'il y a un village, une localité, c'est que les habitants y sont retournés. Les ressortissants de ces différentes localités qui vivent à Ouarou, ou à Sadan Gourma, ou à Mbou du Lasso, se feront les corps, les feront qu'elles sur la toile. On ne peut pas nous dire la réalité des faits. On tente de traverser les faits pour ne pas croire que les journalistes qui n'aiment rien. Et là, c'est dangereux.
Bundi Ouba, directeur des rédactions du journal Le Pays, joint à Ouagadougou.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Togo, le gouvernement a décrété lundi l'état d'urgence dans la région des savanes, zone située dans l'extrême nord du pays, qui a subi deux attaques terroristes près du Burkina. 8 soldats togolais ont été tués dans la nuit du 10 au 11 mai. De Lomé, notre correspondant Kossi Wousou.
L'annonce de l'instauration de l'état d'urgence dans la région des savanes a été faite à la suite d'un conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement, Akoda Ayewadan.
L'état d'urgence qui est pris aujourd'hui va avoir un objectif premier. C'est de donner les moyens à l'administration, aux services publics et aux forces de défense et de sécurité d'aller plus vite dans leurs actions. Vous savez, c'est une mesure d'exception et cette mesure d'exception intervient pour une situation particulière. On le sait tous, la région est la cible d'attaques terroristes et l'État a besoin d'agir, mais d'agir vite et efficacement.
Pour le ministre Ayewadan, l'état d'urgence va créer les conditions nécessaires à la bonne conduite des opérations militaires, au maintien de l'ordre et de la sécurité dans cette région. Sur les implications de cette mesure sécuritaire, Payado Aboukpessi, le ministre de l'administration territoriale.
D'abord, il y a l'assignation à résidence. La police et la gendarmerie peuvent procéder à des opérations de contrôle d'identité ou d'interpellation sur la voie publique. La possibilité de visites domiciliaires et de saisies. Il y a enfin le contrôle des sites Internet et des services de communication en ligne.
Rencontré dans la capitale Lomé, Agbo estime que le gouvernement doit aller plus loin.
Je pense que l'état d'urgence dans les savanes, c'est une très bonne chose, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, c'est la savane, c'est dans le nord. Ça veut passer par le sud, ça veut passer par l'est ou l'ouest. Donc s'il faut quand même prendre des décisions, des mesures, c'est tout le Togo, ce n'est pas dans les savanes seulement.
Albert Agbeko est journaliste. Il convie les militaires à éviter les bavures, comme ce fut pour l'état d'urgence sanitaire.
Pour l'état d'urgence sanitaire, c'était des policiers qui sont plus proches de la population, mais il y avait eu ces bavures. Maintenant que c'est des militaires qui sont souvent casernés. Nous avons des inquiétudes que ces événements malheureux ne se reproduisent dans cette région-là. C'est pourquoi nous interpellons la haute hiérarchie militaire pour qu'ils sensibilisent les militaires à ce qu'ils ne commettent plus ces bavures.
Le ministre de l'administration territoriale rassure et précise que tout se fera dans le respect des dispositions légales du pays avec le respect des droits humains. Payadoua Boukwesi a rassuré les populations et les a invités à prendre ces nouvelles mesures avec sérénité et surtout collaborer avec les forces de l'ordre et de sécurité pour réussir la lutte contre le terrorisme. Kossi Woussou, Lomé pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le Congrès américain revisite l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, l'un des événements les plus marquants de l'histoire politique récente des États-Unis. Les audiences télévisées qui ont débuté la semaine dernière ont pour but de déterminer la responsabilité ou non de l'ancien président Donald Trump dans les violences qui ont eu lieu le jour de la certification de la victoire de Joe Biden à la présidentielle de 2020. Avec nos analystes, nous évoquerons l'importance de ces audiences et les leçons à tirer de l'assaut contre le Capitole. Ce sera ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
En Côte d'Ivoire, une cinquantaine de présidents et ministres ainsi que des centaines de chefs d'entreprise africaines ont pendant 2 jours pris part à Abidjan au sommet annuel de l'Africa CEO Forum, un rendez-vous de débat et de conférences du secteur privé africain. Un reportage de Anne Zouanke à Abidjan.
L'Africa CEO Forum, un rendez-vous de débat et de conférences du secteur privé africain, se tient cette année dans un contexte marqué par la pandémie de COVID qui ralentit les activités depuis 2 ans, ainsi que la crise entre la Russie et l'Ukraine qui se répercute sur l'Afrique. Alassane Ouattara, le président de Côte d'Ivoire, présent à ce forum, exprime ses inquiétudes.
Évidemment, cette situation de pandémie a été accentuée avec la crise en Ukraine et ses répercussions économiques et sociales et même financières dans le monde. Nous sommes donc préoccupés, c'est le moins que je puisse dire, par le ralentissement de la croissance mondiale et le problème de la disponibilité pour l'Afrique de certains produits tels que le blé et les engrais et bien sûr la poussée inflationniste alimentée par la situation également de l'augmentation des prix du carburant.
Durant la conférence, il est question de définir de nouvelles routes vers la prospérité du continent. Les décideurs africains vont réfléchir sur des thèmes aussi variés que l'indépendance économique de l'Afrique, comment faire face à la cybersécurité, l'accélération du commerce intra-africain ou encore la contribution du secteur privé face à l'insécurité alimentaire. Albert Zefak, l'économiste en chef de la Banque mondiale pour la région Afrique, parle de la productivité en agriculture.
Let me just give you one number. 83%.
Laissez-moi vous donner un chiffre, 83%. Je répète, 83% des pauvres en Afrique vivent de l'agriculture de subsistance. Nous ne pouvons pas continuer dans ce modèle. Nous devons stimuler la productivité de l'agriculture en investissant et non en distribuant davantage de subventions. Si vous regardez les dépenses publiques en Afrique dans l'agriculture pour les pays africains, la plupart vont dans les subventions et non dans l'investissement et l'innovation qui augmenterait la productivité. Si nous faisons cela, et plus la productivité augmentera, et plus les gens quitteront l'agriculture pour des activités plus productives. Mais ceux qui resteraient vivraient mieux.
Martha Diop, qui dirige la Société financière internationale, une filiale de la Banque mondiale dédiée au secteur privé, met en avant les solutions technologiques.
Bien sûr, tout cela se fera de manière différente. Nous sommes à l'époque du numérique. Nous avons des start-up talentueuses. Nous avons beaucoup de talents en Afrique. Et les investissements qui seront faits en matière de clubs sous-marins devraient permettre d'accélérer cette transformation économique et structurelle de nos économies.
Les organisateurs de l'Africa CEO Forum 2022 espèrent que ce type de rencontre pourra aider à construire une Afrique unie face aux enjeux mondiaux, forte vis-à-vis de ses partenaires internationaux et protectrice vis-à-vis de ses populations. Anne Zouanke à Abidjan pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia, à la mise en onde, Lionel Runirag-Hima et à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.